dans laquelle, bien sûr, ce n'est pas nécessairement une classe d'excellence, mais au moins, il sera dans une assez bonne classe avec une scolarité normale. Alors, je vous lis une citation qui va un peu dans ce sens, dont un parent s'est posé des questions par rapport à un des collèges de Nanterre. Alors, il dit, la plupart des parents, il parle des parents de l'association FCPE de l'école primaire, m'ont dit qu'effectivement, si on prenait comme première langue l'allemand, et effectivement, ma fille a pris l'allemand, et tous les enfants qui ont pris l'allemand comme première langue sont en général des enfants qui ont les félicitations ou les compliments. Donc, en sixième, on est obligé de les mélanger un peu avec les autres. Mais après, avec les jeux des options, latin, etc., il y a finalement des classes qui sont meilleures. C'est pour ça que j'ai orienté ma fille vers ce collège. Elle a fait allemand, après elle fera toutes les options que font les autres, et elle se retrouvera avec les enfants d'un meilleur niveau. Donc là, vous voyez, c'est une colonisation que j'ai appelée la constitution d'un capital social exclusif. Donc ils font ce que le sociologue américain Putnam appelle du bonding, c'est-à-dire de la constitution de l'entre-soi, qui est un entre-soi moins radical que lorsque on fait des choix résidentiels pour être dans l'entre-soi résidentiel scolaire, qui est moins radical que quand on va vers le privé sélectif, mais qui est quand même de l'entre-soi à l'intérieur d'un espace plus hétérogène et qui est souvent très clairement perçu comme ça par les élèves, qui d'ailleurs vivent très mal la présence de ce type de classe dans les établissements. Et il y a d'autres parents qui développe plutôt ce que j'appellerais des chaînes de confiance. Donc, plutôt que de bâtir des dispositifs fondés sur la méfiance vis-à-vis des autres, font un autre raisonnement. Pour eux aussi, c'est important qu'il y ait un pourcentage de parents des classes moyennes et supérieures qui aillent dans cet établissement, mais leur raisonnement est de nature différente. Leur raisonnement est du type de dire, voilà, si je décide que mon enfant aille dans ce collège, c'est parce que je vais essayer que ce collège devienne meilleur, mais qu'il devienne meilleur pour tout le monde, et pas seulement pour mon enfant. Et donc, ce sont des parents qui vont s'investir à nouveau, parfois par le biais des associations des parents. C'est pour ça que travailler sur le militantisme dans les associations des parents suppose de voir beaucoup de déclinaisons possibles de ce qui recouvre le militantisme dans les associations. Donc, ce sont des parents que j'ai retrouvés surtout dans un des collèges du centre de Montreuil qui se sont beaucoup investis. Ce sont les premières vagues des parents qui ont gentrifié le centre de Montreuil, qui est maintenant très gentrifié. Et donc, les premières vagues des parents, ça c'est un des parents qui n'avait plus d'enfants dans l'école, qu'on a interviewé parce qu'on nous parlait souvent de lui, qui explique comment effectivement ils se sont battus, les premiers pionniers, parce qu'ils s'appellent les pionniers, sont arrivés et ont beaucoup travaillé pour que l'établissement soit classé en ZEP, alors que c'était un établissement qui n'avait pas le profil très défavorisé, surtout dans une inspection académique comme la Seine-Saint-Denis, où il y a beaucoup plus d'établissements bien plus défavorisés que ce collège, et dont certains n'ont pas le label ZEP, ne l'avaient pas à l'époque. Ils se sont battus et ils ont obtenu qu'alors qu'il était moyen défavorisé, ils deviennent quand même ZEP. Et donc à ce titre, ils ont eu un conseiller d'éducation de plus, donc moins d'enfants par classe, donc tous les moyens qui étaient associés à l'époque au centre d'éducation prioritaire. Ce sont des parents qui se battent toujours pour qu'il y ait des ressources, donc qui vont protester souvent au rectorat, à l'inspection d'académie, pour que tous les moyens soient là, à ne manquer pas d'absentéisme, etc. Et ce sont aussi des parents qui s'investissent beaucoup à titre personnel, y compris dans le soutien scolaire. Donc beaucoup des parents que nous avons interviewés dans ce collège faisaient eux-mêmes du soutien scolaire le samedi matin ou le mercredi après-midi ou le soir. Et donc s'investissaient avec donc l'hypothèse, si le collège s'améliore, on rend un service à la communauté, on est pleinement citoyen, on est en train de participer véritablement à ce qu'on pense être notre rôle, et en même temps, le collège sera meilleur pour notre enfant. Et effectivement, ce collège, je n'ai pas suivi les statistiques dans la période récente, je vais essayer. faire avant de finir d'écrire mon livre. Mais en tout cas, pour les, quand je me suis arrêtée de faire l'enquête de terrain, tel collège dont les résultats s'étaient nettement améliorés, parce qu'il y avait clairement un cercle vertueux qui s'était créé, contrairement au cercle vicieux qu'on voit beaucoup plus fréquemment, c'est des parents des classes moyennes restaient, s'investissaient, les résultats s'amélioraient. L'année suivante, il y avait plus de parents des classes moyennes et supérieures qui restaient, les résultats s'amélioraient encore plus. Et donc voilà, on a engendré un cercle vertueux qui se voyait clairement dans les statistiques des résultats au brevet, des pourcentages de redoublement, enfin, les indicateurs que l'on peut prendre. Avec l'idée aussi pour ses parents que cet investissement, c'est aussi une façon de se faire plaisir eux-mêmes, puisque les travaux sur le militantisme montrent aussi qu'il y a aussi cet aspect de plaisir qui intervient beaucoup dans le discours des militants aujourd'hui. Donc là, je vous lis une citation d'un parent qui participe à cela. « C'est un orgueil de faire du soutien scolaire. Moi, j'ai vraiment l'impression, c'est pas un truc, c'est pas un sacrifice, c'est un truc qu'on aime faire. Moi, j'ai fait du soutien scolaire, j'aide les gamins à faire leurs problèmes des maths, d'anglais, tout ça, bon, ça me plaît. J'abandonne pas ma famille pour autant, mais je crois qu'il faut être clair là-dessus. C'est de l'altruisme, mais à mon avis, l'altruisme, c'est avant tout un acte d'égoïsme, c'est-à-dire que beaucoup donner, c'est faire plaisir pour moi. Donc, des parents qui sont plutôt dans cette logique-là. Donc, pour conclure, je pense que ce qui est très intéressant, c'est de voir donc comment toutes ces opérations, à la fois mentales et pratiques, que j'ai essayé de décrire autour du choix de l'établissement fondé et autour des autres, pour moi, sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la fois extrêmement intéressantes sur le plan sociologique, parce que je pense que si, par exemple, on dialogue avec les économistes qui ont investi le champ du choix de l'école, on n'a pas de mal avec cela à montrer à quel point le choix est un acte social. Et il est pleinement socialisé par toutes les entrées que l'on peut prendre, on peut montrer que véritablement c'est un objet sociologique à part entière et que la sociologie a tout son mot à dire sur le choix de l'école et que c'est un objet même particulièrement riche pour faire déplier et se déployer tout un ensemble de travaux sociologiques et montrer à la fois le capital social, à la fois la confiance, à la fois les dispositifs de jugement. Donc je trouve que de ce point de vue, pour moi en tout cas, ça a été un bel objet sociologique et c'était un peu le sens de ma présentation. Après, il y a une autre façon d'interpréter ces résultats, si on se place non pas en termes de pure recherche, mais aussi quelles sont les implications politiques de ce type de travail, c'est que l'on voit bien la difficulté à intervenir sur les choix des familles dès lors que l'on pense que ces choix ont des effets ségrégatifs et que cette ségrégation elle-même est nuisible en termes d'intégration sociale et en termes d'inégalité par les effets que peut produire la concentration des élèves défavorisés sur les niveaux de réussite des élèves par la suite. Eh bien, on voit bien que la solution n'est pas simple. Elle ne consiste pas, par exemple, à donner plus de moyens aux établissements scolaires en tant que tels. À l'occasion, donc, à cette rentrée, j'ai sorti un petit ouvrage, un essai sur la carte scolaire, que j'ai rédigé avec Jean-Pierre Romain, un inspecteur général. Et donc, j'ai eu plusieurs fois à la radio et personnellement l'occasion de discuter avec Xavier Darcos, donc directement, avec l'idée, vous avez dans la nouvelle procédure de ce qu'on appelle à tort la libéralisation de la carte scolaire, parce qu'en fait, ce n'est pas une libéralisation de la carte scolaire, c'est juste la consigne qui a été donnée, c'est que il faut faire émerger plus de demandes de dérogations et surtout accorder beaucoup plus de dérogations. Et donc, j'ai beaucoup insisté dans mes débats avec lui, et on insiste beaucoup dans les livres, sur le fait qu'un des effets de cette mesure, qui se présente comme une mesure démocratique parce qu'elle accorde une priorité aux boursiers. Priorité qui a été moyennement respectée, parce que dans le travail qu'avait fait Jean-Pierre Aubin, il montrait que selon les inspecteurs d'académie auprès desquels ils s'étaient entretenus, certains l'avaient mis en dernier critère, d'autres en premier, qu'il y avait un problème très concret, c'est qu'on ne sait pas qui est boursier au collège avant que les élèves soient au collège. Parce que les critères pour être boursier au collège sont différents de, du primaire, et ça change au lycée, ça change dans l'enseignement supérieur. D'autre part, les critères boursiers lui-même, d'ailleurs je pense qu'un jour je vais faire une enquête sur les boursiers, parce que c'est un objet assez intéressant, parce qu'en fait on est boursier parce qu'on demande à être boursier. Donc il y a un certain nombre de familles qui pourraient être boursiers, qui ne demandent pas. Après, il y a, selon les établissements, il y a des très grandes variations, parce que si les chefs d'établissement s'investissent beaucoup, on augmente le taux de boursiers. Depuis qu'on a dit qu'il fallait trouver des boursiers pour les envoyer au prépa, les taux de boursiers dans les établissements ont augmenté de façon tout à fait importante. Et là, je reprends le travail de l'inspection générale. C'est vraiment tout ce qu'il y a de plus fiable par rapport au fait que ce n'est pas l'inspection générale qui dirait habituellement ces choses-là. Donc, s'il les met en avant, c'est que ça a dû être vraiment un effet très important. Donc, ce que j'ai essayé de dire au ministre, parce qu'on était décrit dans le livre, c'est que déjà ces établissements donc, étaient décapités des familles de classe moyenne qui les fuyaient, etc. Si maintenant, en plus, on donne la priorité aux boursiers, on sait, par tout ce que l'on sait sur les familles des classes populaires, et par la façon dont ça se passe dans la réalité, que ça va être les bons élèves des milieux populaires qui vont quitter les établissements. Ce sont ceux qui vont être poussés par les enseignants, ce sont ceux qui sont le plus souvent boursiers, ce sont ceux dont les familles pensent que ça vaut la peine de faire cette démarche, etc. Et donc, à chaque fois que j'ai discuté de ça avec le ministre, il me disait, mais non, de toute façon, ce n'est pas grave, parce qu'on va compenser cela en maintenant les moyens dans les établissements. C'est ce qui est marqué hein, dans le texte. C'est que même si les établissements perdent beaucoup d'élèves, parce qu'on va les fuir davantage, les établissements défavorisés, leur situation ne va pas empirer puisqu'on va leur donner les mêmes moyens. Donc ils vont garder autant d'enseignants, autant de conseillers d'éducation, autant d'heures d'enseignement que par an. Et donc vous voyez bien que ça c'est une réponse totalement inappropriée, même si elle était parfaitement sincère. Même si on la prend au monde et que c'est vraiment une véritable réponse pensée complète, eh bien, ce n'est pas la bonne réponse, puisque pour les parents, l'élément important, c'est qui va à l'école, donc ils vont continuer à la fuir, et parce que la concentration d'élèves défavorisés va produire un cercle vicieux qui ne cessera donc directement. Alors, à chaque fois que je lui dis ça, il m'a dit, et voilà, on fermera cet établissement-là. Alors, je lui ai dit, comme à chaque fois, qu'on ferme très peu d'établissements scolaires. Même les régimes les plus libéraux, même en Angleterre, dans la période la plus radicale quand Margaret Thatcher était au pouvoir, etc., elle disait, mais voilà, on les fermera dès qu'on met le libre choix. Eh bien, on ferme très peu d'établissements parce que le nombre des groupes de pression qui peuvent se développer autour d'un établissement scolaire, surtout en milieu urbain, il y a déjà les parents des milieux populaires qui ne veulent pas que l'école ferme parce qu'ils veulent aller à l'école d'à côté. Les enseignants, ils ne veulent pas perdre des postes. Le maire, il ne veut pas perdre son collège. Le conseil général non plus. Les commerçants des centres-villes ne veulent pas perdre des clients. Donc ça crée une conjonction des groupes de pression qui font qu'on ferme très très peu d'établissements. Et donc ça ne se fera pas. Et d'ailleurs, on en a fermé très peu. On a fermé. Il y a quelques projets à l'étude où on va fermer, mais pour l'instant, on ne va pas fermer. Donc, on voit bien que si l'on veut avoir une politique par rapport à l'amélioration globale du système éducatif et la réduction des inégalités, il faut prendre au sérieux qu'est-ce qui rentre dans la perception et dans la construction de la qualité des établissements, comment se construisent les stratégies et par quelle voie passe l'information, le jugement, etc., pour pouvoir construire des politiques éducatives qui ne peuvent d'ailleurs qu'être des politiques très ajustées au niveau local, parce qu'on voit bien que les situations sont très variables d'un niveau à l'autre. C'est quelque chose que j'ai beaucoup défendu dans mes travaux, parce que j'ai beaucoup travaillé sur les dynamiques locales, donc la nécessité de tenir compte des spécificités des contextes locaux. On voit bien la nécessité de prendre en compte tous ces facteurs dès lors que un inspecteur d'académie, un maire, un ministre veut mettre en place des stratégies efficaces qui ne sont pas simples à mettre en œuvre, parce qu'on voit bien la complexité de la situation, mais en tout cas, elles seront d'autant plus efficaces qu'on tient compte de tous ces éléments-là de façon fine pour ne pas penser que parce qu'on crée des pôles d'excellence, que parce qu'on laisse les moyens, etc., on transforme radicalement le fonctionnement des établissements. On voit bien que ces stratégies rencontrent très vite des limites si l'on tient compte de ce que j'ai essayé de vous dire aujourd'hui. Voilà, monsieur Marie.
Merci beaucoup, Antoine, pour cette belle démonstration. Donc, je vais vous laisser la parole maintenant pour vos questions.
Alors là, c'est un vrai problème, donc ça sera très très long. Disons que de façon, si je le dis de façon simple, je suis partie effectivement de la nomenclature INSEE en mettant effectivement dans les classes moyennes les professions intermédiaires et dans les classes supérieures les professions intellectuelles et les cadres, donc intellectuels supérieurs et les cadres. Après, j'ai beaucoup hésité et j'hésite jusqu'à aujourd'hui dans la terminologie classe moyenne, classe supérieure, classe moyenne supérieure et classe moyenne inférieure. Parce que comme j'utilise beaucoup la littérature anglo-saxonne, ça complique encore plus les choses, puisque la terminologie anglo-saxonne, c'est que les classes moyennes, ça correspond plutôt aux classes supérieures, aux classes moyennes supérieures françaises. Donc ça, c'est un premier élément. Un autre élément, c'est que je me suis beaucoup intéressée, et peut-être davantage qu'au clivage vertical, je me suis beaucoup intéressée au clivage horizontal dont, par exemple, Pierre Bourdieu a beaucoup parlé dans la distinction, entre le pôle économique et le pôle culturel, qui recoupe, mais pas complètement, aussi un autre pôle que j'ai trouvé très important dans mon travail, qui est gens du public, gens du privé. C'est-à-dire qu'il y a, me semble-t-il, de modèles dans lesquels on retrouve des stratégies assez typées vers, surtout de façon très typée, du côté des classes supérieures, du pôle économique qui travaille dans le secteur privé. Donc, je raconte par exemple le modèle, c'est cadre du privé, ingénieur, qui est forcément dans le privé. Donc, ce modèle-là, il y a un ensemble de stratégies qui sont très typées par rapport à ce groupe-là. Ce groupe-là est celui qui est le plus dans les choix résidentiels. C'est celui qui dispose du capital économique, c'est les choix résidentiels qui reposent essentiellement sur les ressources économiques, notamment dans les grandes villes, avec notamment l'augmentation exponentielle du prix du logement, ça a été de plus en plus réservé à certaines fractions des classes supérieures dotées d'un bon capital économique. Mais ce sont aussi ces fractions-là qui vont le plus vers le privé, pour des raisons en partie d'ordre économique, encore qu'en France, on sait que le privé ne coûte pas du tout aussi cher que là où le privé est vraiment privé, il n'est pas subventionné par l'État, mais ça a quand même un coût, et il y a aussi le privé hors contrat qui lui coûte beaucoup plus cher, mais le privé a des coûts directs et indirects, y compris les cartables que doivent avoir les enfants, les voyages qu'ils font, la façon dont ils s'habillent, les déplacements, tout cela implique quand même pas mal de coûts. Mais c'est aussi parce qu'ils croient beaucoup plus, si je renvoie à ce que je disais tout à l'heure, à l'efficacité du secteur privé. C'est-à-dire que ceux qui travaillent dans le privé sont ceux qui croient le plus que les établissements privés sont les plus efficaces. Donc, ce sont aussi les plus ceux qui croient le plus à l'intégration par cloisonnement. Donc ceux qui sont les plus prêts, si j'utilise le vocabulaire de Jacques Danslow, bien que je n'aime pas beaucoup ces termes, qui sont les plus prêts à faire sécession par le choix résidentiel et le choix du privé, mais appuyés par une certaine vision de l'intégration qui est plus ou moins clairement affirmée. Ce sont des parents aussi qui sont beaucoup dans des stratégies à la fois utilitaristes, donc très centrées sur l'éducation comme un bien positionnel, le maximum, etc., les classes turbo, voilà. Et en même temps, dans des stratégies expressives où ils sont très centrés sur le caractère, la personnalité, ce qui conduit aussi à aller vers l'enseignement privé. Donc ça, c'est un groupe très typé. À côté, on a un groupe qui est aussi relativement typé, mais dont les marges, dont les contours sont plus flous en termes de quelles professions ça recoupe, que j'ai appelé un peu les intellectuels, mais avec une hésitation jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, je me pose encore des questions, sur le fait de si je regroupe ensemble les classes supérieures et les classes moyennes dans ce pôle intellectuel, comme le fait l'Éducation nationale dans ses statistiques, où il a ce qu'il appelle le groupe A+, je crois, dans lequel il met ensemble tous les enseignants, par exemple, dans le même groupe, etc. Parce que c'est vrai que les trajectoires des enfants d'enseignants sont en France très semblables, que ce soit des enfants des professeurs des écoles ou des professeurs d'université. Donc, est-ce que je mets dans ces groupes, depuis les chercheurs, les journalistes, les professions, les professions libérales à haut capital intellectuel, mais aussi des professions intermédiaires plus typées comme professions intermédiaires, par exemple éducateurs, travailleurs sociaux, etc., qui seraient un grand groupe, qui sont beaucoup plus dans des métiers intellectuels et en partie relationnels, soit dans la production des connaissances, soit dans la transmission, la diffusion ou le recours de façon plus ou moins importante aux connaissances, et qui en même temps travaillent davantage, mais pas toujours, dans le secteur public. Plus du secteur public. Mais on peut créer une ligne de division, mais c'est une ligne que je mettrais en pointillé, si je devais le faire de façon graphique, entre d'un côté effectivement les classes supérieures et le pôle plutôt qui est plus profession intermédiaire. Il y a des éléments communs, ce sont des catégories qui sont beaucoup plus dans l'intégration par côtoiement. Ce sont des catégories qui parlent beaucoup plus de l'éducation comme un bien en soi, de la valeur des connaissances pour le développement personnel. On a des éléments communs qui sont beaucoup plus des personnes qui vont développer des stratégies à l'intérieur du secteur public, soit à choix d'un autre établissement public, soit colonisation de l'établissement public du secteur, etc. Et ce qui le différencie, là où il y aurait les pointillés, c'est que plus on va vers le haut, plus il y a quand même une prégnance plus grande de l'utilitarisme, plus on va se déployer plus, un peu plus des choix du privé, etc. Et plus on va vers les professions intermédiaires, plus par exemple la dimension expressive, c'est très forte. C'est, par exemple, chez les travailleurs sociaux, chez les éducateurs, qu'on a tous ces discours sur le bonheur de l'enfant, mais ceux qui vont les revendiquer de la façon la plus pure, qui disent voilà, le plus important c'est le bonheur de l'enfant, etc. Là, on va se retrouver dans ce pôle-là, alors que les enseignants sont déjà moins dans ce pôle, et les enseignants du supérieur moins encore, donc voilà. Mais c'est un peu plus difficile. Et puis, il y a un groupe qui me pose problème, si je garde mon schéma en quatre, là, avec vertical, horizontal, c'est ce groupe qui serait le pôle économique des professions intermédiaires, c'est-à-dire qui correspondrait à ce qu'on appelait autrefois les cadres moyens, qui ont disparu en tant que telles de la nomenclature, tous ceux qui occupent donc ces types de professions-là plutôt dans le secteur privé. Donc c'est plutôt privé que pour l'économie, parce qu'ils n'ont pas nécessairement un capital économique plus élevé, mais ils ont moins de capital culturel que les autres, souvent. Et ces parents, j'ai plus de mal à les cerner parce que très souvent, je les étudie plutôt par défaut. C'est-à-dire ils sont moins stratèges que tous les autres. Ils sont plus proches des classes populaires par beaucoup de côtés. D'une certaine façon, on peut prendre par rapport à eux les titres de l'ouvrage que Louis Chauvel avait consacré aux classes moyennes, qu'il avait appelé les classes moyennes à la dérive. On peut dire que c'est plus le groupe qui est à la dérive. Donc c'est un groupe qui est moins typé, que j'ai défini par « il fait moins de ceci, un peu moins de cela, etc. » Donc qui est un peu plus difficile à cerner, mais j'ai quand même décidé dans cette dernière phase de réécriture de mon livre d'essayer de le cerner davantage et de voir s'il y a des choses que je peux dire de façon quand même un peu plus musclée et plus forte autour de ces groupes. Mais voilà, mais ça pose d'énormes problèmes de définition. Bien sûr, dès ces catégories-là, c'est clair. En tout cas, je vois quand même qu'il y a une ligne de fracture assez forte par rapport aux classes populaires, et que si entre tous ces groupes, à la fois c'est intéressant et difficile de voir où se situent les lignes de partage, ayant beaucoup travaillé par le passé sur les classes populaires, et encore dans le cadre de cette enquête, ayant pris une fraction des classes populaires, même parmi les classes populaires, je ne peux pas dire qu'il n'y ait pas des stratégies, parce qu'il y a une fraction des familles des classes populaires qui ont des stratégies, et elles épousent quand même des modèles assez différents de ceux que j'ai décrits. Et donc il me semble que je peux affirmer qu'il existe quand même une fracture claire autour du choix d'école entre les classes populaires et les catégories dont je vous ai parlé aujourd'hui. Après, les distinctions plus fines qu'on peut faire à l'intérieur de ces groupes, effectivement, elles feront sans doute l'objet de débats et de discussions et me font encore à moi-même problème.
Oui. Donc le choix du collège largement dévolu aux femmes, comment est-ce qu'on pourrait se différencier des choix féminins? Est-ce que par exemple c'est un choix qui est complètement collectivisé à l'échelle de la famille, ou est-ce qu'au contraire il y a des femmes qui ont conscience, après tout on est dans les classes moyennes qui individualisent leur choix, est-ce que rentre en ligne de compte l'individualisation des couples, puisque c'est peut-être à elles que sont dévolus les choix, mais c'est aussi à largement elles que sont dévolus les coûts de ces choix. Donc comment est-ce qu'on peut différencier des procédures de choix, des modalités des choix des femmes, des classes moyennes?
Alors j'ai essayé d'explorer cet aspect, mais comme l'enquête n'était pas construite autour de cette question au départ, je regrette maintenant certains choix que j'ai faits. Donc j'évoquais tout à l'heure le fait de n'avoir pas interrogé systématiquement les couples, parce que donc on a beaucoup plus une vision féminine, et je regrette de n'avoir pas posé plus de questions sur les débats qu'il y a pu avoir autour du choix, et des questions plus précises sur la répartition des tâches autour du choix, etc. En tout cas, bon, de façon massive, tout ce qui est recherche des renseignements, etc., on voit bien que beaucoup, les femmes s'investissent beaucoup là-dessus, et que c'est souvent dans le prolongement d'autres tâches féminines. C'est au moment où on fait les courses, qu'on parle avec la voisine d'à côté, et qu'on lui dit « qu'est-ce que tu feras l'année prochaine ?» etc. Donc ça s'inscrit dans une inscription dans l'espace du quartier, et dans un certain nombre des tâches que les femmes vont assumer plus que les hommes. Mais bon, il y a un certain nombre d'hommes qui s'impliquent quand même dans ces tâches, des renseignements, des pêches aux informations, etc., par le militantisme dans les associations. Parfois, ce sont les présidents d'associations, ce sont parfois des hommes, donc on va les retrouver dans ces positions-là. Mais malgré tout, c'est quand même majoritairement, cela apparaît majoritairement comme un travail féminin. Alors, une autre façon de voir les choses, c'est de voir quel est le degré de délégation, de négociation préalable, etc. Alors, dans les familles, justement, que je ne sais pas très bien cerner, les familles de ce pôle profession intermédiaire, plutôt du secteur privé, là, je disais, elle ressemble plus aux classes populaires. Un des éléments, c'est que là, il y a une très forte délégation à la mère. Très souvent, par exemple, la mère dit, ah non, mais mon mari, elle me dit, mais voilà, les enfants, c'est toi. Donc, moi, je ne lui ai même pas dit, c'était moi qui m'en occupais, etc. Et toutes les décisions, je les ai assumées moi-même, et toutes les choses qu'il fallait faire, c'est moi qui m'en suis occupée. Et donc, on a une fraction des familles qui, là, semble très proche, des familles populaires que j'ai pu rencontrer par le passé autour de ces questions. Après, dans les autres familles, eh bien, le degré des négociations est en partie lié, bien sûr, au degré de convergence ou de divergence entre parents, qui renvoient parfois à leur propre trajectoire. Alors parfois, ça a été intéressant parce que parmi les couples qu'on a interrogés, il y avait parfois des couples où le père avait été dans le privé, la mère dans le public, ou l'inverse. Et donc ça donne lieu à des débats, bien sûr, sur le choix du public, le choix du privé. Il y a des familles qui décrivent des très longs débats en couple, c'est plus du côté des classes moyennes et supérieures du pôle intellectuel. On discute beaucoup dans ces familles en général, et on discute aussi du choix d'école. Dans les familles du pôle, donc plutôt classe supérieure, du secteur privé, pôle économique, là il y avait aussi soit un discours du type, mais on était totalement d'accord, donc il n'y avait aucune discussion, on voulait exactement la même chose, parce qu'il y a une homologie très forte entre les conjoints, etc. Soit aussi on retrouve des formes de délégation, avec notamment quand c'était le cas des femmes au foyer et des hommes cadres du privé, où là il y avait une forte délégation à la mère, mais sur fond d'un consensus parfois explicité, parfois qui n'avait pas besoin d'être explicité, puisque ça allait de soi qu'on ne voulait pas du collège du centre-ville de Nanterre, et qu'on voulait absolument tel collège privé, donc la question ne s'était pas posée. Et après, ce qui était intéressant, c'est de voir comment les parents s'est déterminé par rapport aux différentes variables que j'ai essayé de travailler, donc les visées, les valeurs, etc. Alors, on retrouve des choses très classiques, mais c'était intéressant comme de les retrouver. Alors, les hommes sont beaucoup plus dans le côté instrumental et les femmes dans l'expressif. Donc, aux hommes de dire, moi, si c'était moi, je prendrais un guide et je dirais, mais voilà, c'est le meilleur, c'est le top, c'est là où il faut aller. Et la mère qui dit, oui, bien sûr, on cherche un très bon établissement, il faut quand même qu'il soit bien, qu'il se sente à l'aise, etc. Et donc, la mère intervient pour jouer, donc on est chez personne, dans la division de rôle totalement instrumentale, expressive, mais ça revient très souvent quand même. Donc cet écart, les hommes, c'est beaucoup plus le bon établissement, des critères clairs, qu'on me dit, c'est vraiment carré, qu'est-ce que c'est, etc. Et les femmes, avec apportant toutes sortes de petites nuances, mais telle voisine a dit qu'un tel, etc. Donc, il retrouve là des stéréotypes, mais qui sont des stéréotypes qui ont quelques fondements. Et ce qui est quand même intéressant, c'est de voir que, bien sûr, les femmes sont beaucoup plus dans ce que j'appelais l'intégration par cloisonnement. C'est-à-dire que les femmes ont aussi en charge la reproduction de classe de façon élargie et de façon très claire. Et donc elles sont beaucoup plus sensibles à tous les aspects, non seulement expressifs, mais à tous les aspects. Et donc j'avais lu tout à l'heure une citation dans l'enseignement que je faisais tout à l'heure, mais que je n'ai pas lu ici. Donc ça c'est par exemple pour dire mais comment ça revient souvent chez les femmes. Donc il dit... Dans l'ensemble, non, ça c'est un petit peu plus loin. Voilà, la petite troisième a commencé à s'atrioler. Ça c'est une école primaire de Nanterre, mais très hétérogène. À la fin de l'année, il y a eu une fête d'école et j'ai vu qu'il n'y avait pas des gens comme nous. Alors ça c'est les enquêteurs qui disent, c'est-à-dire, il y avait beaucoup à base des groupes d'Arabes en autogestion, le directeur au tam-tam. C'était très bien, mais ce n'était pas nous. Elle était bien dans l'école au CP, mais en avançant dans le temps, il y aurait eu de moins en moins de petites filles dans le même genre, avec des robes à manches ballons et des colons. C'est caricatural, donc vous voyez toujours la réflexivité des parents. Mais on ne souhaite pas que tout le monde soit comme soi, mais on ne souhaite pas non plus être totalement isolé. Ce n'est pas un cadeau à faire aux enfants. L'ouverture, c'est bien, mais il faut quand même s'identifier à quelque chose. Donc, c'est des femmes qui sont beaucoup plus dans toutes les stratégies de se dire quel est le public et qui sont extrêmement attentives aux détails. J'attendais à la sortie de l'école toutes ces femmes qui parlaient avec un langage grossier. Je me suis dit jamais, mon enfant ne pourrait aller à cette école. Je suis allée voir la directrice, figurez-vous qu'elle avait une tache sur sa robe, etc. Je prends des vrais exemples. Hein, là. Je me suis dit, une directrice qui est comme ça, ça ne peut pas être un bon établissement. Donc, ils sont extrêmement attentifs à tous les aspects des reproductions des classes, etc. Alors que les hommes sont plus dans l'instrumentalisme, mais même dans les débats, parfois, notre entretien a suscité un débat au sein du couple. Et donc, parfois, les hommes qui disaient « Non, mais là, tu es en train de faire la ségrégation, tu exagères. Si le niveau est bon, on s'en fout, qu'elle est là pour cacher ou pas, etc. » Et donc, on est, effectivement, on voit bien qu'il y a une répartition de rôles autour de ça et que les hommes vont déléguer ce travail-là aux femmes, en tout cas à ce niveau-là de la scolarité. C'est parce que le choix du collège n'est pas le choix du lycée, n'est pas le choix des classes préparatoires. Par exemple, en ce moment, je mène une autre enquête sur la formation des élites. Et ce qui est très intéressant, c'est que spontanément, quand j'ai demandé, donc j'ai utilisé les associations de parents et les internet et tout ça pour essayer de contacter les familles, et il y a un taux de réponse masculine très élevé. Donc, j'ai interviewé beaucoup d'hommes au sujet du choix des classes préparatoires. On voit bien que là, les hommes sont très impliqués. Et donc, j'ai beaucoup plus de pères qui spontanément ont souhaité répondre à l'enquête. Donc, on voit bien que selon le niveau d'enseignement et le type de morceaux du niveau d'enseignement, des segments qu'on est en train d'étudier, c'est pas pareil.
Bon, je sais pas si vous avez d'autres questions pour qu'on sorte de ce thème un peu déprimant, de répartition par genre.
Ouais.
Oui, non, de curiosité juste, c'est de, dans quelle mesure les enfants qui savent, enfin, les stratégies qui sont conçues pour eux, les parents, si vous avez...
Alors, justement, j'avais fait la connaissance de Marie-Brette, parce qu'elle m'avait invité à un séminaire de la CNAF, qui va donner un petit numéro de revue là-dessus, autour, donc j'avais fait une communication autour de cet aspect-là que je n'ai pas évoqué aujourd'hui, sur la structuration des choix des enfants. Et donc, on dit donc, pour le résumer de façon un peu rapide, le modèle idéal des parents des classes moyennes et supérieures, sauf quelques rares parents des classes supérieures du modèle de la bourgeoisie plus traditionnelle, c'est que le choix d'établissement, c'est le choix de l'enfant. Donc à chaque fois, quand on interroge les parents, ils disent toujours « Non, non, mais c'était vraiment le collège qui, il ou elle, voulait, etc. » au début. Mais, dans la réalité, dans l'approfondissement de l'entretien, on voit bien que les parents structurent très fortement le choix et que l'idéal réel, c'est que l'enfant arrive à déclarer, à vivre comme sien les choix que les parents voulaient de toute façon pour lui ou pour elle. Et donc j'ai essayé de démontrer deux modes de façon idéotypique dont les parents procèdent pour cela, qui renvoient un peu aux fractions que j'ai appelées tout à l'heure fractions plus technocrates, capital économique, et les fractions plus intellectuelles, qui correspondent un peu à ces deux catégories-là. D'abord, il y a les parents qui, de mon point de vue, leur stratégie principale, que j'ai observée, c'est le contrôle de l'environnement. C'est-à-dire qu'ils contrôlent tellement l'environnement de leurs enfants qu'ils réduisent et réduisent l'univers des possibles, de sorte que l'enfant, à la fin, a le choix, peut-être entre deux établissements qui sont à peu près comparables du point de vue des parents. Quand j'appelle réduire les choix des possibles, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est déjà les choix résidentiels. On est dans l'autre choix des classes, dans le lieu de résidence. C'est les choix des activités des enfants. Ils pratiquent certains types d'activités qui sont choisies autant par le statut qu'elles dispensent que par le contenu de ces activités. Donc, ils font équitation, tennis, etc. Donc, ils sont dans l'entre-soi des classes niveau-là. C'est le choix de l'établissement dès le départ, l'école primaire, etc. Donc, ils réduisent l'univers des possibles des enfants. De sorte que l'enfant n'imagine pas que le collège du centre-ville de Nanterre existe. Enfin, ça ne lui passe pas par la tête, il ne fera jamais ses choix. Il habite dans la gated community de Rouen, il a toujours habité là, il est toujours allé dans le privé, il est allé dans certaines activités extrascolaires où il a fréquenté les mêmes types d'enfants, et donc ça ne lui viendrait jamais à l'esprit d'aller dans ce type d'établissement. Parce que la contrainte exercée sur l'enfant est très très forte, et donc, au grand bonheur de ses parents, il dit « je vais aller dans le lycée privé, et donc c'est le même choix que voulaient les parents, mais l'enfant l'a exprimé de lui-même. « Tous mes copains vont là, c'est vraiment exactement ce que je recherche, c'est un environnement compétitif comme je le souhaite, etc. » Et voilà, et tout est très bien. Et il y a des parents qui structurent aussi beaucoup les choix, et ça c'est plutôt donc, les intellectuels relationnels, dont je parlais tout à l'heure, qui structurent les choix par l'argumentation et la discussion avec les enfants. Je disais, ce sont des familles, on parle beaucoup, et là on a plus l'impression qu'il y a une négociation, et les parents d'ailleurs utilisent beaucoup plus les termes des négociations que dans le premier cas, ils disent, moi j'ai beaucoup négocié avec l'enfant, on a beaucoup parlé, etc. Le problème, c'est qu'effectivement, les enfants ne sont pas en situation d'égalité par rapport aux parents, et que les arguments des parents ont une force que n'ont pas toujours les arguments des enfants, puisque les parents vont déployer tout un ensemble d'arguments. Mais oui, tu dis ça, mais tu ne sais pas qu'il y a ceci, et je vais te montrer, voilà ce que dit le monde de l'éducation, et voilà, et je vais te faire rencontrer un autre enfant, et tu verras ce qu'il te dira. Oui, ton opinion est tout à fait intéressante, mais tu verras ce que dit Z, etc. Et là, je prends des vrais exemples, hein, je ne caricature pas, c'est des choses comme ça qui sont dans les entretiens. Et donc, par l'argumentation et les raisonnements, l'enfant arrive à être convaincu du choix que voulaient les parents, mais tout en ayant le droit à la parole. Cette stratégie est un peu risquée, parce que si les parents sont très bons, eh bien, ils produisent un enfant très argumentatif, qui sera peut-être capable de développer une argumentation qui mettra ses parents au pied du mur. Et ça arrive. Par exemple, dans certains entretiens, il y a des parents qui disaient, eh bien, il m'a tellement dit, écoute papa, tu m'as tellement dit que tu étais en faveur de l'intégration, tu votes à gauche, et puis maintenant tu me dis que je ne vais pas aller au collège du quartier. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est totalement incohérent avec toi-même. Et donc, bien sûr, si on a développé un enfant argumentatif, si on a vraiment réussi, et bien, il est possible que cet enfant, s'il fait un choix qui déplaît à ses parents, il soit capable de les défendre et que ses parents ne puissent pas lui opposer une démarche autoritaire qui contredirait le fondement même de leur modèle et même de leur propre position d'intellectuel. Donc c'est un peu plus risqué, mais bon, les risques sont quand même assez limités parce qu'il y a une capacité qu'on développe. Les risques dans l'autre cas, qui est un risque tout à fait minoritaire qui existe, c'est que l'enfant ne supporte plus l'encerclement. Il y a des enfants qui disent, voilà, j'en ai ras le bol, je ne veux plus aller dans le privé, je ne veux plus être qu'avec les mêmes, je ne peux plus les supporter. D'ailleurs, il y a par exemple des parents interviewés qui avaient eu des enfants dans le collège privé de Vincennes, qui avaient déjà été à l'école privée de Vincennes, etc., qui me disaient, à la fin, c'était très très dur, il fallait faire un effort maximum, parce que la dernière année, ils me disaient, mais j'en peux plus, c'est les mêmes, je les vois depuis l'école primaire. Je ne supporte plus, et c'est les mêmes que je retrouve dans les activités, c'est les mêmes que j'invite ici, les mêmes parents. Voilà. Et donc, il peut y avoir des enfants, effectivement, qui pètent les plombs parce qu'ils ne peuvent plus autant d'encerclement. Donc, ces stratégies, et là aussi, c'est un risque. Je veux dire, on ne peut pas encercler totalement, impunément, des enfants qui ne sont pas non plus totalement inconscients des stratégies qu'on a pour eux. Mais disons que globalement, dans ces catégories-là, on refuse d'avoir recours à des stratégies autoritaires d'emblée. Et qu'avoir recours à des stratégies autoritaires, c'est un symbole d'échec. C'est on a échoué, donc il a fallu imposer le choix. La vraie réussite pour la très grande majorité de ses parents, c'est que l'enfant choisit de toute façon ce qu'il voulait pour lui ou pour elle. Avec peut-être quelques nuances dans les choix. Parfois, il y a certains parents qui disent, voilà, je te laisse le choix, on pourra aider. Et ils associent beaucoup les enfants au choix. Dans les deux cas, d'ailleurs, par exemple, ils visitent les établissements privés avec les enfants, etc. Donc, il y a toute une activité d'enrôlement qui s'étend sur une très longue durée. C'est ce qui distingue aussi les classes moyennes et supérieures des classes populaires. C'est ce degré d'anticipation, c'est que ça commence très très tôt. Ces travails, ces structurations, etc. Parfois, il s'est fait de façon non consciente, mais au fur et à mesure, il devient très conscient. Et donc là, il y a des exemples des familles qui disent « Et alors, je vais lui faire rencontrer X, et après je vais lui faire rencontrer Y, et après on est allé visiter l'école privée, et après on a regardé une émission, et puis on s'est posé des questions, et puis on est revenu à l'école publique. » Et donc, il y a tout un travail qui prend très très longtemps, mobilise beaucoup d'énergie, qu'on trouve rarement dans les classes populaires. C'est exceptionnel, même chez des parents qui font des choix, on ne va pas du tout trouver cette anticipation, cette mobilisation, cette structuration, ce qui fait que dans les classes populaires, très souvent, on délègue le choix à l'enfant, c'est beaucoup plus fréquent, et ça, il y a beaucoup d'enquêtes en Angleterre qui montrent bien ça, soit les parents essaient d'imposer de façon autoritaire leur choix, et se heurtent aux résistances très fortes des enfants, et donc ça se passe plus difficilement. Et quand on a subtilement, par un long travail, opéré cette structuration des choix des enfants.
Est-ce que vous avez vu émerger la figure du parent militant en faveur de la mixité sociale qui a fait le collège, justement, oui. Les parents sont très investis, qui pourrait d'ailleurs rejoindre des stratégies aussi, des stratégies d'ouverture à l'autre, des stratégies même, pourquoi pas, d'études qui s'intéressent de plus en plus aux bons élèves de l'être.
Oui.
C'est quelque chose que vous avez dit.
Alors, oui, pour certains parents, donc ça peut relever d'un militantisme pur, au sens de je suis dans une logique de défendre l'école du quartier, d'intégrer, etc. Mais la ligne est fragile dans les stratégies que j'ai décrites tout à l'heure entre ceux qui sont dans des stratégies inclusives et ceux qui sont des stratégies exclusives. Parce que ce que je vous ai décrit, ce sont des idéotypes et effectivement dont les parents empiriques réels ou placer la limite entre les parents qui appuient un peu quand même le cas de son enfant et les parents qui sont vraiment dans des stratégies militantes inclusives, y compris parfois il n'a pas besoin d'appuyer son enfant, c'est-à-dire que, et ce que décrivent certains parents, c'est comment ils peuvent bénéficier des choses sans même les demander, parce qu'y compris les chefs d'établissement leur donnent comme une forme de récompense du fait d'être si militant, d'être si aidant. Ils les mettent naturellement dans les bonnes classes, ils leur font faire un certain nombre de choses, de sorte que les parents n'ont même pas besoin de s'exprimer, mais qu'il a quand même un certain nombre de bénéfices, il est très écouté, il a quand même, même s'il les fait pour tous les autres, beaucoup plus d'informations sur l'orientation, sur des choix comme ça. Donc il y a beaucoup de choses qui se font dans l'entre-deux. Alors je crois qu'il y avait cet aspect-là dans votre question, il y avait aussi le fait de est-ce que ça peut devenir une stratégie de choisir un établissement hétérogène à partir du moment où cet établissement, par exemple, fait partie des nouvelles politiques d'ouverture sociale. C'est quelque chose que j'étudie actuellement dans mon projet sur la formation des élites, parce que j'étudie beaucoup les politiques d'ouverture sociale des Sciences Po, de l'ESSEC, etc. Et que comme ça se passe dans des zones que je connais bien, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, etc., des secteurs que j'ai beaucoup étudiés par le passé, eh bien, effectivement, on peut imaginer, et il y a déjà à Saint-Ouen, dans certains établissements qui sont depuis longtemps dans la procédure convention éducation prioritaire de Sciences Po, et qui à Saint-Ouen, c'est en plus un établissement qui est devenu lycée expérimental de Sciences Po, on voit un petit retour de certaines factions des classes moyennes, pas nécessairement des classes supérieures, mais des classes moyennes qui avaient tendance à fuir l'établissement, c'est dit, si maintenant mon enfant peut bénéficier de cette procédure pour aller à Sciences Po via convention éducation prioritaire, vu que quand même l'examen d'entrée à Sciences Po est très compétitif, sinon il est à la voie de mention très bien, mais elle-même est devenue très compétitive, parce qu'on ne prend pas tous les élèves qui ont mention très bien, mais une sélection à l'intérieur de mention très bien, eh bien, ses parents ont fait un petit retour. C'est quelque chose que je suis en train d'étudier dans mon enquête actuelle sur la formation des élites, mais sur lequel je n'ai pas encore des statistiques sur plusieurs établissements qui permettaient de voir s'il y a un effet massif ou c'est juste ponctuel. Mais en tout cas, il peut y avoir ce type de stratégie, parce que parmi les enfants qui intègrent Sciences Po par la procédure convention éducation prioritaire, il y a 40% qui sont des enfants des classes moyennes. Donc, il n'y a pas que des enfants très défavorisés, donc ça peut être effectivement une stratégie. Ça peut être une stratégie dans des enfants, dans des établissements, pardon, qui sont au lycée expérimental et Sciences Po, parce qu'effectivement ils ont beaucoup plus de moyens. Ce sont des établissements où les élèves ont beaucoup de voyages à l'étranger, ont du tutorat d'entreprise, ont beaucoup d'activités. Donc effectivement, ça peut constituer un élément d'attractivité, d'autant plus si c'est lié effectivement à la possibilité d'intégrer une classe préparatoire ou un établissement type grande école prestigieux. C'est trop récent pour peut-être voir des effets très massifs et ça prend beaucoup de temps d'aller les étudier et ça ne faisait pas partie de cette enquête en tout cas, mais de l'enquête que je suis en train de mener, donc c'est un travail en cours, mais effectivement c'est une question qui pourrait se poser à l'avenir de façon intéressante. Quoi.
Allez-y, hein, l'une et l'autre, regardez bien que là.
C'est juste une petite question, parce que là, tu as une idée de la proportion que ça pouvait représenter des parents qui peuvent se permettre de faire des choix résidentiels de mobilité pour changer les enfants d'école. Est-ce que vous avez une idée de la proportion que ça...
Non, comme je vous le disais, je crois, tout à l'heure, malheureusement, on n'a pas de grandes enquêtes statistiques sur les choix résidentiels intégrant, déjà il y a très peu de travaux sur les choix résidentiels, et les travaux qui existent n'ont pas intégré le choix de l'école. Donc on n'a pas vraiment des éléments statistiques sur lesquels se fonder. Marco Verti, en même temps que faisait mon enquête dans Léo Destène, il a travaillé un peu plus donc, sur le plan monographique, sur ces stratégies résidentielles dans les Hauts-de-Seine. C'est un travail très, très monographique, donc on ne peut pas en déduire. C'est sûr qu'en même temps, c'est une stratégie qu'on ne met pas en œuvre non plus tous les ans. Je veux dire que l'établissement n'est pas un bien non plus comme d'autres biens que l'on peut changer tout le temps. Aucun parent ne va changer son enfant d'école chaque année en se disant « Non, mais il y en a encore une meilleure, donc je vais aller, etc. » Donc, mais effectivement, j'ai été surprise quand même déjà de l'ampleur du nombre de parents qui m'avaient dit choisir le quartier en fonction de l'école dans l'enquête, donc je vous ai dit à peu près 2/3. Et puis après, du nombre assez important des parents qui étaient prêts à déménager s'ils n'avaient pas l'établissement qu'ils voulaient, privé ou le collège public qu'il avait demandé par dérogation. Alors après, ce qu'ils le feront vraiment, je ne sais pas, je n'avais que des déclarations, pas des éléments qui permettaient d'étudier cela. Ce n'est comptabilisé nulle part, donc c'est très très difficile à avoir une idée précise, mais c'est en tout cas une question tout à fait intéressante. Je n'ai pas d'éléments plus précis à vous fournir.
C'est aussi une question méthodologique, mais sur dans la mesure où vous avez travaillé par entretien, est-ce que vous avez été confronté à une difficulté sur comment classer des discours? Est-ce que c'est les préférences qui ont été à la base de certaines actions ou pratiques d'entreprise, ou est-ce que ce sont des justifications, en gros ex post, de pratiques? Je pensais à une comparaison avec la petite enfance et le fait que, je crois, 92% des parents dans les enquêtes se déclarent très satisfaits du mode de garde. Qu'ils ont pour leur enfant de 0 à 3 ans, parce que, c'est une expression de satisfaction qui correspond au fait que la norme de je fais tout ce qui est mieux pour mon enfant dans ce cas-là est tellement forte que je ne vais pas en départir en disant qu'on n'a pas fait tout ce qui était. Donc, du coup, on est amené à reconnaître comme positivement la pratique qu'on a eue. Et je me demandais si dans les entretiens, vous aviez eu parfois ce doute entre est-ce qu'on est en train de me dire que je préfère le privé parce que j'ai toujours préféré le privé, donc c'est une préférence. En place dans un système de préférence, comme vous l'analysez parfois, ou est-ce que parfois c'est vraiment des justifications de pratiques entreprises qui viennent enfin, dans l'entretien pour appuyer cette pratique?
Je serais plus gênée, bien évidemment, s'il s'agissait d'un questionnaire. Là, il s'agissait d'un entretien, donc j'avais la possibilité d'explorer. Et est-ce que pour moi est un objet en soi et sur lequel je souhaite me pencher, notamment dans l'introduction et peut-être dans des articles que je ne pourrais pas lire dans le livre, c'est justement cette tension entre l'écart qui peut exister entre parfois les pratiques et les discours. Mais les parents eux-mêmes en sont très conscients, et donc j'ai déjà un peu attiré votre attention sur la réflexivité des parents. Donc très souvent, comme je le disais tout à l'heure, les parents sont... Eux-mêmes, ils disent, vous allez me dire que je suis totalement hypocrite, je suis en train de vous dire que je suis pour l'établissement public, mais en fait, j'ai choisi le privé pour un de mes enfants parce qu'il a une difficulté, etc. Donc, cela traverse tout l'entretien, et bien sûr, il y a une difficulté à départager, est-ce que c'est une rationalisation a posteriori, et est-ce qui révèle... Je n'utilise pas le registre des préférences parce que pour moi, ça, c'est un registre plutôt des économistes, donc qui relève plutôt des croyances, des valeurs, des idées, etc. Mais je dirais d'une certaine façon, peu importe. Moi, je prends ce discours et j'essaie de voir comment il s'est construit et qu'est-ce qui le nourrit derrière et quels sont les éléments, les arguments qui sont invoqués. Avec une volonté très forte de me démarquer d'une tradition que je pense est instaurée très fortement dans la sociologie française par différents biais, l'influence de la psychanalyse, l'influence des perspectives souvent d'une sociologie de l'intérêt, etc., que de disqualifier tout cela comme rationalisation, on fait qu'on ne s'intéresse pas à ces discours, au rôle qu'ils jouent, etc., et que... Malgré tout, dans leur discours des justifications, les parents s'efforcent de construire une forme de cohérence qu'ils peuvent ou qu'ils ne peuvent pas tenir. Et soit ils arrivent à la faire tenir, et donc soit ils sont très forts, soit c'est réel et ça se fonde sur des vraies convictions, soit très souvent ils disent à la fin, au milieu, ils disent « Non, mais je me contredis moi-même, vous voyez, etc. » Donc, c'est des choses que j'explore au niveau des entretiens qui sont pour moi extrêmement intéressantes. Et ce qui était très intéressant, c'est que, en termes de justifications comme celles que vous évoquez, c'est que la plupart des parents que j'ai interviewés tenaient à se justifier sur le fait qu'ils avaient choisi. C'est-à-dire qu'ils considéraient comme une norme que le bon parent se devait de choisir. Donc très souvent, Les parents me disaient, mais peut-être vous croyez que parce que mon enfant il est au collège de Nanterre, c'est parce que je n'ai pas choisi. Non, non, mais il est là parce que je l'ai choisi. Et je vais vous expliquer. Donc il avait une norme qui apparaissait très fortement à ce niveau-là. Bien sûr, tout ce qui touche en France, par exemple les questions d'égalité, d'intégration, comme ce sont des valeurs fortes autour de l'école, c'est souvent des discours où on va avoir, pour certaines fractions des parents, faire apparaître une langue de voix. Mais comme vous avez vu dans un certain nombre de citations, beaucoup de parents ont exprimé un discours extrêmement direct. Et d'ailleurs, je trouve que les politiques de ces dernières années et le contexte politique a un peu libéré la parole. Et donc, il y a énormément de discours extrêmement racistes qui étaient exprimés en tant que tels, que j'ai analysé dans un autre article que j'ai écrit là-dessus. Vous avez vu les articles sur les citations sur le cloisonnement social. C'est parfois sans état d'âme, les maladies infectieuses d'un côté, les filles à petite robe comme celle-ci d'un côté, les autres. Donc, je n'ai pas toujours eu l'impression que j'étais que dans l'euphémisation, dans la rationalisation, et que même quand ces stratégies étaient à l'œuvre, la longueur de l'entretien, les contradictions, etc., permettaient de faire apparaître, et aussi parfois les recoupements entre des parents, parce que comme la procédure d'entretien s'est faite parfois par les associations des parents, par boule de neige, dans des quartiers, les gens se connaissaient parfois, les uns, ah vous avez interviewé un tel, ah oui mais je lui ai prêté mon adresse, mais les parents ne nous avaient pas dit ça, donc on rajoutait ça à l'entretien, Madame X, oui elle dit toujours l'école de Nanterre c'est très bien, mais vous savez, de toute façon elle ne va pas mettre ses enfants dans le collège, même si elle vous a dit ça, etc. Donc voilà, mais je ne me suis pas livrée tellement à ce type d'exercice, j'ai pris le discours au sérieux en essayant de les pousser, donc toutes ces nuances et ces complexités, parce que c'était pour moi un objet, et essayer un peu de sortir de cette logique, voilà, c'est de la rationalisation, derrière il n'y a quel intérêt, et voilà, une fois que j'ai posé que l'intérêt des parents était celui-ci, le discours, c'est un masque, c'est un leurre, etc. Non, moi je pense qu'il faut prendre le discours au sérieux, parce que le discours est aussi performatif, parce que ce sont des catégories qui utilisent beaucoup le discours et que donc il faut le prendre au sérieux comme un objet sociologique, quitte à moi-même en tant que sociologue montrer quelles sont les limites. Et effectivement, je ne pourrais jamais dire voilà, ce sont clairement des visées et non pas des rationalisations ex post ou des choses comme ça. Mais quitte à un moment donné à avouer les limites, j'ai préféré prendre ce discours totalement au sérieux et non pas dire, comme dans le métier des sociologues, voilà, le discours fait écran, donc je ne m'intéresse qu'aux pratiques le discours n'est qu'un écran par rapport à la réalité. Donc, ce n'est pas ma perspective et ce n'est pas mon approche.